Et puis moi, j'ai réfléchi à ce sujet, à la conversation que nous avons eue l'autre jour au sujet de vos œuvres complètes.
Ouais.
Bah, il me semble tout de même qu'on ne peut pas laisser les choses...
Ah bah, ça sera mon fils qui fera ça.
Oui.
Mon fils fera ça. Moi, réellement, j'ai essayé, j'ai mis de la bonne volonté, mais remettre le nez dans tête d'or et dans la vie, ça dépasse mes forces. Barreau m'avait écrit, veut absolument monter tête d'or, mais ça me fait horreur, n'est-ce pas? C'est un sentiment très complexe que je n'arrive pas à analyser, n'est-ce pas? D'abord, il y a le sentiment de l'infériorité de la chose, au point de vue au point de vue du travail, n'est-ce pas? Au point de vue de l'élaboration. Et puis alors, comme dit Descartes, l'arvatus a ses dos, n'est-ce pas, maintenant? J'ai appris à mettre un masque, n'est-ce pas, en grande partie, n'est-ce pas?
Oui.
Je n'arrive pas à me montrer à cru et à vif comme on veut le faire dans la simplicité d'enfant, n'est-ce pas? Alors, ce tel d'or, quand je le lis, me fait l'effet d'un écorché, n'est-ce pas? Comme si c'était moi, et à vif, et dans la posture la plus désarmée et la plus livrée, somme toute, au public, n'est-ce pas? Il y a des choses dans le discours de Sébès, dans les discours de tête d'or, qui me font dresser les cheveux sur la tête, n'est-ce pas, en disant comment ai-je pu me livrer comme ça au public, n'est-ce pas, me montrer moi-même les sentiments les plus secrets, les plus ridicules, un être qui arrive à l'état de larve, n'est-ce pas, la larve est désarmée, l'insecte m'a fait l'arvatus insolite, n'est-ce pas, il a toute une armature. Mais là, je suis la larve.
Vous n'étiez pas encore un insecte.
Oui, oui. Je suis la larve dans l'état le plus gluant, le plus désarmé, n'est-ce pas? Et alors, me livrer au public dans cet état-là, ça me fait dans l'effet de...
Oui, mais je comprends bien.
Réaction. J'ai beaucoup de peine à m'expliquer. J'ai réfléchi à ça, pourquoi je m'opposais à... Pourquoi ces lectures même de tête d'or ou de la ville me causaient une telle répulsion, et c'est pas uniquement le côté artistique, parce que je trouve ça des œuvres inférieures, dans certains côtés ne le sont pas inférieures.
Non.
Ce sont des œuvres fortes, tout de même, n'est-ce pas?
Extrêmement.
Oui, mais ce sont des choses qui elles sont trop de moi-même, n'est-ce pas? Et en étant trop de moi-même, elles font le fait au public de ne pas l'être. Font le fait de quelque chose de maladroit, de gauche, de...
Seulement maintenant, vous ne pouvez plus faire qu'elles n'aient pas été livrées.
Ah oui.
Après, pas que dans leur brutalité, elles abandonnent la scène.
Elles ne refusent pas, elles ont été livrées et elles resteront, n'est-ce pas?
Et quant aux corrections elles-mêmes...
Quand je vois ces dialogues de Sébès et de Tête d'Or, par exemple, qui sont des dialogues de deux parties de moi-même, et dans l'instant le plus cruel et le plus, comment dirais-je, le plus cynique, enfin le plus livré de moi-même, n'est-ce pas? Alors, avoir montré ça au public et me livrer dans cet état-là, puis alors il y a d'autres raisons, on peut prendre tête d'or pour Adolf Hitler, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'Adolf Hitler,
oui.
Une espèce de moquerie de la Providence. En 90, j'ai prévu ensemble Adolf Hitler.
De même que
tout le discours d'Adolf Hitler aux députés qui sont là, à la Chambre des députés qui l'assistent, c'est presque les termes même de ce grand homme, n'est-ce pas?
Et la ville, n'est-ce pas? La ville.
Et la ville,
oui. La ville était vraiment prophétique, n'est-ce pas?
Oui, j'ai écrit ça en 90, n'est-ce pas?
D'ailleurs, il y a quelque chose de prophétique, je trouve, dans toute cette première partie de votre œuvre.
Oui.
Lorsque.
Et dans l'échange, encore bien plus, n'est-ce pas? Alors, la change, ça me concerne personnellement, mais il y a toute une prophétie là-dedans aussi. Dans la ville aussi.
Mais je songe que, par exemple, pour vous, n'est-ce pas, un personnage comme Lala ou la princesse, même, étaient des personnages prophétiques, en un certain sens.
Ah oui, il n'y a pas de doute.
Le personnage pas encore rencontré, n'est-ce pas, mais qui vient obscurément, n'est-ce pas.
Le personnage chargé de destinée.
De même que cet apaisement que l'on sent dans le repos du septième jour, et qui n'est pas, au fond, l'apaisement de la 30e année, n'est-ce pas?
Non.
Qui était, enfin, antidaté d'une façon invraisemblable.
Évidemment, il y a un côté prophétique, ça c'est sûr.
Je trouve d'ailleurs qu'on n'a pas fait, en général, au repos du 7e jour, enfin, dans votre œuvre, la place qu'il mérite. Oui, c'est une œuvre étonnante à l'époque où vous l'avez écrite.
Je ne l'ai jamais relu, figurez-vous, depuis. Dès que j'ai achevé de l'écrire en 94, je ne l'ai jamais relu.
C'était en 94
94.
Je croyais que c'était plus, un peu plus tard, 4 ou 5 ans plus tard. Enfin, c'est la dernière de la série.
C'est possible que ce soit en 94. Non, vous avez raison, ça, vous avez parfaitement raison. Je l'ai écrite, j'étais à Fouché-Hou à ce moment-là, c'était en 96.
Il y a là une espèce de solennel apaisement, n'est-ce pas, de l'homme jeune qui va enfin trouver le port. Et ça ferme absolument ce cycle, n'est-ce pas. Ce que vous avez écrit après
est tout différent. Ouais.
Sauf, n'est-ce pas, alors cette jeune fille violaine qui tend comme un lien, n'est-ce pas, entre les deux. Et vous êtes encore revenu.
Est-ce que ça va marcher quand tu ouvres la radio?
Vous en parlez, n'est-ce pas?